vous écoutez Au bout de soi, un balado dans lequel je vous partage mes réflexions et apprentissages de vie et ceux de gens de la communauté de Gaspé. Je m'appelle Caroline Farley et je vous invite à découvrir des témoignages sincères, touchants et remplis d'humanité, livrés par des personnes qui, comme moi, ont le goût de s'ouvrir et de partager leur expérience. C'est une occasion d'apprendre les uns des autres, de s'inspirer et de s'aider à mieux vivre. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver encore une fois et de vous savoir à l'écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque semaine et vraiment ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise de la quarantaine. Et oui, cette fameuse période de vie qui fait peur à bien des gens par tous les bouleversements qu'elle engendre parfois. Mais évidemment, c'est un peu comme la crise d'adolescence, là. Ce n'est pas tout le monde qui la vit nécessairement, mais moi, ça m'est arrivé. Puis je vais en parler également avec mon invité Frédéric Savage, qui a lui aussi vécu quelques tourments en lien avec la quarantaine. Mais comme à l'habitude, avant d'approfondir ce sujet avec mon invité, je vais vous raconter mon propre vécu par rapport à la crise de la quarantaine. D'abord, fait un peu particulier, moi j'ai vécu ma crise de la quarantaine à 39 ans. Je sais que ça fait peut-être un petit peu bizarre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis précoce ou quelque chose comme ça, mais bizarrement, on dirait que je semble vivre des remises en question un an avant le temps, avant le changement de la décennie. Je dis ça parce que ça, à 29 ans aussi, j'avais connu une année difficile où je m'étais posé plein de questions. Je me rappelle à ce moment-là, à 29 ans, je me disais, oh mon Dieu, quand on va être dans la trentaine, je pense qu'on pourra plus faire d'erreurs, puis alors qu'on sait très bien, c'est ridicule, là, des erreurs, on en fait toute notre vie. Mais à ce moment-là, j'avais peur qu'on avait moins le droit ou plus le droit à l'erreur. Donc ça m'avait suscité beaucoup de questions. Puis aussi l'autre chose, c'est que je réalisais que j'avais plusieurs rêves sur ma liste de rêves, parce que j'ai une liste de rêves, là, certains appellent ça une bucket list, mais j'avais pas réalisé beaucoup de mes rêves, en fait, puis j'allais avoir 30 ans. Donc là, je me suis dit, hey, là, ça serait bien que je m'y mette puis que je réalise certains d'entre eux. Et je me rappelle que celui-là que je m'étais dit, bon, là, je me lance, c'était de nager du chalet de mes parents jusqu'à l'île qui est située en face. Ça, c'était un rêve que j'avais depuis l'adolescence et que j'avais même jamais été proche de réaliser parce que je savais pas nager autre qu'en petit chien. Donc, j'ai décidé d'apprendre à nager pour réaliser ce rêve-là et c'est finalement arrivé. Puis, pour vous donner une idée de la distance, là, c'est l'aller-retour, c'est à peu près 2,5 km. Donc, c'était vraiment un rêve là qui a nécessité beaucoup d'efforts, mais qui m'a également rendu très fière et que j'ai réalisé à l'âge de 30 ans. Donc, ou 29 ans, là, ma mémoire me joue des tours. Mais bref, tout ça pour dire que, puis j'anticipe pas nécessairement les changements de décennie. C'est ça qui est curieux. C'est comme si, je sais pas, j'arrive dans un cycle où, en fin de dizaine, je me pose des questions. Et là, ben, je vais lâcher la trentaine pour revenir à la quarantaine. Donc, ce qui m'est arrivé dans les dernières années, c'est que à l'aube de cette étape de vie-là, la quarantaine, ben j'ai réalisé que j'avais accompli plus que j'espérais accomplir dans toute ma vie. Donc, la grande question qui m'habitait à ce moment-là, c'était « je m'en vais où maintenant? » Et c'était une grande question, là. J'étais un peu perdue, je connaissais pas la suite des choses. Puis pour trouver une partie de la réponse, il a fallu que je m'isole pour y voir plus clair, puis que je revisite les mois précédents pour comprendre pourquoi je me sentais perdue, puis pourquoi l'année 2019 avait été aussi difficile. J'ai pris du recul, je me suis isolée en forêt, j'ai fait une retraite fermée là pour penser à tout ça, puis je me suis rendu compte de certaines choses. D'abord, je me suis rendu compte que j'étais possiblement en deuil de mon année 2018, qui avait été vraiment là, extraordinaire à tous les points de vue. C'est une année qui avait été marquée par notre mariage à Sébastien et moi. Tu sais, à ce moment-là, ça faisait 16 ans qu'on était ensemble. On avait 3 enfants et là, on a décidé de se marier puis on voulait que nos filles soient là. Ça a été un moment extraordinaire où on a partager notre amour puis celui qu'on porte aux gens de notre entourage. Ça a été vraiment un moment très, très fort de notre année et qu'on a vécu en famille. Donc, ça a été une année où je me suis épanouie et réalisée tant sur le plan personnel que professionnel. C'est comme si cette année-là, en 2018, j'avais réussi à mettre en application et en pratique mes apprentissages des dernières années. Et c'est comme si tout s'était mis en place puis que j'avais récolté le fruit de mes efforts. Donc, le sentiment avait été extraordinaire, mais je suis ressortie de cette année-là passablement fatiguée, puis j'avais pas vraiment le goût de m'embarquer dans d'autres projets parce que j'étais vraiment fatiguée puis j'avais pas tant de désir que ça, j'avais pas d'objectif parce que je me disais, bon, là, je vais me reposer un peu, je vais me calmer. Je sentais que j'avais certainement besoin d'une pause, mais au final, j'ai l'impression que je me suis mis en pause. Je me suis mis sur le pilote automatique, en quelque sorte. Alors, le résultat, ça a été que j'ai spiné dans du négatif, dans des inquiétudes, dans des suppositions, parce que je savais pas vers quoi je m'en allais. Puis moi, ben, tu sais, il faut comprendre que j'ai toujours comme des objectifs ou des défis là devant moi. Tu sais, je carbure à ça, ça m'oriente, ça me fait du bien. Puis là, ben, j'en avais pas. Pourtant, à ce moment-là, il y avait rien dans ma vie qui me donnait de raison de ne pas bien aller. Je le disais d'ailleurs, je disais « je vais bien, mais je me sens pas bien ». Je me sentais perdue, j'avais pas de repères, puis tout ça à l'aube de la quarantaine. Donc, je me sentais vraiment, là, je me sentais mal. Là, j'étais pas moi-même. Comme tant j'avais commencé l'année 2019, donc ça, c'est l'année de mes 39 ans, là, j'étais bien intentionnée, je voulais prendre soin de ma tête puis de mon corps régulièrement. À ce moment-là, ça faisait 5 ans que j'avais différentes douleurs physiques inexpliquées qui me préoccupaient vraiment, puis de plus en plus, elles affectaient mon quotidien. En février 2019, d'ailleurs, les douleurs que je ressentais au genou gauche puis à la bandelette iliotibiale étaient tellement rendues intenses que je pouvais même plus marcher sans douleur, donc je pouvais encore moins courir. Puis moi, ben courir, j'aime vraiment ça. Là, c'est un sport que j'ai dû mettre de côté très souvent dans les dernières années à cause de ces douleurs-là. Tu sais, je vous avoue, là, voir ma santé se détériorer comme ça, ça m'a fait entrer dans une spirale de pensées négatives où je m'imaginais plein de scénarios pessimistes. Là. Ces pensées-là habitaient mon esprit à tous les jours, plusieurs fois par jour. C'était vraiment rendu envahissant. Par moments, j'avais l'impression de penser juste à ça, à ces douleurs-là, parce que non seulement je les ressentais fortement, j'avais mal tout le temps, puis ça m'inquiétait parce que malgré tous les examens, les suivis médicaux, les consultations avec différents professionnels de la santé pendant les 5 dernières années, mais personne n'arrivait à identifier les causes de mes douleurs. Et finalement, c'est comme si tout pétait entre guillemets sur mon corps sans qu'on sache vraiment pourquoi. Puis plus le temps passait, ben là, il y avait un potentiel diagnostic de fibromyalgie qui commençait à se dessiner à l'horizon. Donc, l'hypothèse d'être atteinte d'une maladie dégénérative à 39 ans me donnait vraiment l'impression de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puis ça me faisait réellement peur. Peu à peu, j'ai commencé à m'enliser dans cette situation-là, puis par manque d'énergie puis de motivation, ben ma routine de vie a changé, mais pas pour le mieux. Tu sais, j'ai arrêté de me lever tôt le matin pour me nourrir ma tête puis mon corps, puis ça, c'est une routine qui me faisait du bien. Parce que dans le fond, j'avais plus l'énergie de me lever tôt. Gérer la douleur prenait toute mon énergie. Donc, je m'isolais puis je me réfugiais dans ma tête puis dans mes pensées négatives. J'étais également habitée par un désir de fuite, je vous dirais. J'aurais eu envie de pas avoir de responsabilité, chose qui est impossible quand on a 3 enfants. Mais c'était, tu sais, j'étais dans ce genre-là de mood-là, là. Au fil des semaines puis des mois, ma santé mentale, ben, en a été affectée. Lorsque j'ai consulté mon médecin de famille, elle m'a dit à ce moment-là que je traversais possiblement un épisode dépressif. Et moi, là, la fille qui est généralement positive, puis hop, la vie, j'étais là, ça m'a comme secouée, là. J'étais pas en dépression, mais si la situation perdurait, ce que j'ai compris, c'est que c'est possiblement ça qui m'attendait, la dépression. Donc, après autant d'années à gérer les douleurs physiques, ben ça avait finalement atteint ma tête, là. J'étais plus capable de gérer tout ça. Je pleurais beaucoup là dans cette phase-là, dont quand j'en ai parlé avec mon médecin. Puis là, on s'est tous rendu compte, mon médecin, mon physiothérapeute et moi, qu'il fallait faire quelque chose parce que le statu quo n'était clairement plus acceptable. Donc, de façon concertée, mon médecin puis mon physio m'ont conseillé de prendre une médication contre les douleurs chroniques aux genoux et au dos. Puis ça, c'est une médication qui est également donnée aux personnes atteintes de fibromyalgie. Je vous cacherai pas que ça a été un méchant coup dur. Moi, j'ai jamais été portée sur les médicaments, puis j'associais ce médicament-là à un premier pas concret vers un potentiel diagnostic de fibromyalgie. D'un autre côté, ben, il fallait qu'on essaie quelque chose de différent, puis j'avais pleinement confiance en ces deux spécialistes-là qui me suivent depuis des années puis qui me connaissent bien. Donc, j'ai mis mes appréhensions de côté, puis mon ego aussi, puis j'ai accepté de prendre la médication. Après un mois et demi à endurer les nombreux effets secondaires, puis a pu me reconnaître, là, j'ai enfin émergé du brouillard dans lequel je me sentais. Et à ce moment-là, là, je vais vous dire la présence de mon mari. Ça me fait toujours drôle quand je l'appelle mon mari. Donc, la présence de mon mari a également été déterminante et salvatrice. Dans la carte de la fête des mères qu'il m'a offert en 2019, il y avait écrit, et là, je vais vous le citer, « Mon bel amour, je te souhaite que 2019 soit l'année où tu trouveras les réponses aux bobos physiques qui minent ta bonne humeur. » Sache que je t'aime toujours autant et comme je te l'ai dit un certain 14 juillet de l'an dernier, ça c'était le jour de notre mariage, je t'accompagne sur ce chemin même quand tu as plus de difficultés. Appuie-toi sur moi, je suis aussi là pour ça, je t'aime. » Donc c'est ça que j'ai fait. Je me suis appuyée sur Sébastien, puis on a traversé ça ensemble, jour après jour. Juste en m'écrivant ce mot-là, ce simple mot-là, il m'a rappelé que j'avais pas à vivre ça toute seule. C'est pourtant tellement évident, d'autant plus que ça faisait 17 ans à ce moment-là qu'on était ensemble, puis on avait déjà traversé plusieurs épreuves, main dans la main. Mais j'ai réalisé que lorsque je vis des moments difficiles, j'ai parfois tendance à me refermer sur moi-même, puis à m'isoler. Puis ce que Sébastien a fait, c'est qu'en me tendant la main, il m'a rappelé qu'ensemble, on est encore plus fort. Puis notre communication, à ce moment-là, elle a passé à un autre niveau grâce à cette période-là. Puis encore aujourd'hui, ben, on en tire des bénéfices. Par la suite, ben, il y a eu la période estivale, puis une nouvelle amitié qui m'ont permis de vivre une certaine période d'accalmie puis de plaisir, avant d'éventuellement replonger là, dans une certaine léthargie au cours de l'automne. J'avais l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose de plus profond qui se cachait sous tous les tourments des derniers mois, sur ce sentiment-là où je me sentais perdue. Puis je me demandais surtout ce que j'allais faire de la deuxième moitié de ma vie, maintenant que j'avais plus que ce que j'avais même osé espérer pour ma vie. C'est pourquoi, pour la deuxième fois de ma vie, j'ai fait une retraite dans le bois pour réfléchir à tout ça. Et je vais vous partager les constats que j'ai faits lors de cette retraite-là. D'abord, j'ai l'impression que l'intensité de mes réactions était beaucoup trop grande en 2019. J'étais dans un spin négatif, comme je vous le disais, à propos de ma santé. J'ai aussi vécu une peine d'amitié que j'ai trouvé très difficile à vivre. J'ai même mes intérêts envers certaines activités comme le ski hors piste ou la planche à pagaie étaient vraiment intenses. C'est comme si quand je me mets à aimer quelque chose, là, je voudrais tout le temps en faire, là. Donc, tu sais, même ça, c'est intense. Alors qu'à la base, c'est pas nocif d'aimer un sport, là. Fait que ça a aussi eu une incidence sur mon rapport au temps. On dirait que j'en ai jamais assez de temps, moi. J'ai jamais assez de temps pour faire les activités puis les choses que j'aime. Jamais assez de temps avec mes amis, avec mon chum. Puis ça me donne l'impression de rester continuellement sur ma faim. Puis ça, ben ça me fatigue. Cette année-là aussi, j'ai appris que trop, c'est comme pas assez. On le dit souvent, là. Mais moi, je crois que la quête d'équilibre est quelque chose que je dois clairement travailler. C'était mon constat du moment, puis c'est encore aujourd'hui. C'est vraiment une quête pour moi. Puis j'y arrive par moments, pendant de longues périodes, des fois c'est pendant des années même, mais en raison de mon intensité, puis de mon amour des émotions fortes, de mes intérêts divers et variés, j'ai constaté que dans les dernières années, j'ai souvent flirté avec le fragile équilibre, puis parfois j'ai basculé de l'autre côté. Ça risque d'être une quête de longue haleine, mais je sens que depuis 2016, qui est l'année où j'ai fait un épuisement global de vie, bien, depuis ce moment-là, je sens que je possède les outils pour y faire face. Et l'écriture, c'est vraiment une façon pour moi d'y arriver parce que ça me permet de me regarder aller puis de faire le point régulièrement. Autre constat que j'ai fait à cette époque-là, c'est que en l'absence de projets stimulants puis avec la spirale négative qui m'avait aspirée cette année-là, c'est pas moi qui ai été la plus tendre à mon égard, en fait. Mon discours intérieur, là, il était vraiment à l'image de ce que je vivais, il était négatif. Puis ça, c'est tellement pas moi, c'est pas dans ma nature profonde d'être négative, mais bon, comme tout le monde, j'ai moi aussi mes moments de faiblesse, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je devais changer, je devais arrêter d'être aussi dure envers moi-même. Je me décevais beaucoup, là, de pas être capable de me ressaisir, puis j'étais vraiment pas fine avec moi dans ce que je me disais, là, intérieurement. En bout de ligne, autant que je croyais que j'avais beaucoup de choses à régler avec moi-même quand j'ai fait cette retraite-là, bien, autant j'ai réalisé que je devais simplement revenir à la base, c'est-à-dire à cette quête d'équilibre qui fait de moi que je me sens une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, en constante évolution, puis qu'incidemment, je suis une bonne personne pour ceux que j'aime puis qui m'entourent. Je suis sortie de mon ermitage en me disant que pour la deuxième moitié de ma vie, les choses allaient se placer. J'avais cette confiance-là, j'avais un plan de match, puis mon plan de match, c'était de réintégrer peu à peu des habitudes de vie saines qui nourrissent ma tête puis mon corps. Puis j'avais confiance qu'en faisant ça, j'allais retrouver un équilibre puis le contrôle sur ma vie. Donc, je me suis engagée à me créer des projets, des objectifs, comme j'avais l'habitude de faire, à continuer à faire des lectures qui m'amènent à m'améliorer comme être humain. Puis tout ça sans pression, en douceur, un pas à la fois, chaque jour. Donc, vraiment pas dans la performance, là, c'était absolument pas ça le but. Donc, c'était mon plan d'action pour m'approcher de ce que je suis, puis de ce que je veux devenir, et aussi de m'approcher de mes rêves. Et puis, ben, ça a marché. Après cet ermitage-là, le vent a tourné. J'ai l'impression que les promenades puis les courses en forêt, parce que oui, j'avais même réussi à courir pendant cette retraite dans le bois-là. J'avais fait beaucoup de lectures, les réflexions puis l'écriture aussi m'ont véritablement permis de me retrouver puis de retrouver mes repères. Et le mois suivant, j'ai célébré mes 40 ans en toute sérénité, en ayant confiance que je trouverais les prochains projets qui allaient me faire sentir vivante. Puis par rapport à la prise de la médication, ben, elle a fait peu à peu disparaître mes douleurs, puis j'ai pu recommencer à faire plusieurs activités que je pouvais plus faire dans les dernières années. Donc ça aussi, ça a fait beaucoup de bien, puis ça m'a aidé à retrouver un certain équilibre, parce que moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de bouger, de m'entraîner, ça fait partie de ma vie. J'ai donc sauté à pieds joints dans la quarantaine, la tête pleine de projets, en gardant l'équilibre dans ma ligne de mire. C'est vraiment ça qui me fait sentir vivante, qui me stimule, puis c'est à ça à quoi je carbure au fond, d'avoir des projets qui me gardent en allant, qui me donnent la direction à suivre. Donc je carbure à ça et aussi à l'amour, autant celui que je donne que celui que je reçois. Je peux vous confirmer que la première année de ma quarantaine a été merveilleuse. Ça a été vraiment une année nourrissante, magique. Ça a même été l'une de mes plus belles années de vie. Même la pandémie, elle n'a pas réussi à avoir d'emprise sur ma motivation et mes projets. Donc, j'ai vraiment vécu une année 2020 extraordinaire pour l'année de mes 40 ans. Et je vous dirais même que ma vie a pris une nouvelle impulsion. J'ai l'impression que je sais plus que jamais la direction et le sens que je veux lui donner. Puis ça, vraiment, ça me donne des ailes. C'est comme si après avoir semé en abondance dans ma vingtaine et dans ma trentaine, bien là, je prends plaisir à récolter et à explorer de nouvelles pousses pour les années à venir. Donc vraiment, là, j'aime déjà la quarantaine. Après avoir eu aussi peur d'elle, bien là, je l'ai vraiment apprivoisée. Puis je crois sincèrement que ça va être un beau moment de ma vie. Puis d'ailleurs, c'est au terme de nombreuses réflexions que j'ai faites en lien avec la quarantaine que l'idée de créer le blog puis le balado au bout de soi m'est venue. Donc, tout est dans tout, tout est lié. Et je vais vous dire, ce projet-là, au bout de soi, c'est vraiment un projet qui est en cohérence avec mes valeurs, puis ça me nourrit tellement. J'ai l'impression que depuis qu'il est dans ma vie, tout goûte meilleur, puis que la vie est encore plus passionnante qu'avant. Grâce à ce projet-là, j'ai une raison de plus de me lever le matin. C'est difficile à expliquer là, tout ce qui m'apporte ce projet-là, mais puis tout ce qui vient clarifier aussi, mais j'ai jamais senti ça auparavant. C'est indescriptible. Puis vraiment, là, si seulement m'écouter ou me lire peut vous apporter une fraction de ce que me procure le partage de mes apprentissages de vie avec vous, ben la raison d'être de ce projet-là va s'en trouver d'autant plus significative. Donc, je vous remercie du fond du cœur de m'écouter et de me lire. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. Donc, je vais maintenant explorer le thème de la quarantaine avec mon invité, Frédéric Savage. Frédéric, d'abord et avant tout, c'est mon ami, mais c'est aussi, là, pour ceux qui le connaissent, c'est un grand sportif, c'est un amateur de plein air, de sport, de nature, c'est un Gaspésien et un citoyen que je trouve engagé dans notre communauté. Donc, Frédéric, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le balado.
Bien, merci, c'est réciproque.
Alors, la crise de la quarantaine, grand concept là, un peu parfois même galvaudé, mais j'aimerais d'abord que tu me parles, toi, c'est quoi ton contexte, parce que moi, on s'est quand même déjà parlé de ça, toi, ça a été quoi le contexte dans lequel tu as vécu ce qu'on pourrait appeler une crise de la quarantaine?
Bien, comme je te disais au départ, c'est plus la quarantaine qui m'a fait une crise que de vivre une crise de la quarantaine. Ce genre de crise-là, je les vois souvent comme une accumulation de choses qui nous déplaisent. Ça peut avoir duré des semaines, des mois, des années des fois. Puis au moment de la crise, c'est comme si le couvercle de la marmite sautait. Donc, il y a quand même souvent pour ce genre de crise-là, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on chemine à travers tout ça, puis on s'avance vers la crise. Alors que moi, les événements sont venus un petit peu de l'extérieur m'influencer. Donc, c'est pas moi qui ai créé ma propre crise, c'est le chaos autour de moi qui a fait, si on veut, une crise de la quarantaine.
Puis c'est arrivé à ce moment-là de ta vie, là. Donc,
puis c'est arrivé à peu près quand j'avais 40 ans. Je dirais que ça a commencé à ma 39e année de vie. Puis ça a été un peu l'apothéose là, dans l'année de mes 40 ans. Là. Si je voulais faire un parallèle avec la royauté, là, je dirais que ça a été mon anus horribilis, là, un petit peu comme l'année où la princesse Diana est décédée. Là. On a dit que c'était...
Oui, je me rappelle. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé, toi, à ce moment-là de ta vie?
Bien, ma conjointe de l'époque, que avait eu des gros problèmes de physique au départ qui se sont transposés vers des problèmes psychologiques. Puis à ce moment-là, elle a eu besoin de faire un arrêt de travail avec une dépression majeure. Dans tout ça, j'ai essayé de prendre la place, la meilleure place, si tu veux, où j'ai essayé un petit peu là d'aplanir les difficultés puis peut-être les taire plutôt que les affronter.
Okay.
Donc, pour moi, c'était quelque chose de temporaire. Puis comme c'était temporaire, ben ça reviendrait au beau fixe puis ce serait un mauvais souvenir un peu plus tard. Alors que je me rends compte qu'il y a une partie d'échange qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait à ce moment-là.
OK.
Donc, puis d'un côté comme de l'autre. Mm-hmm. D'un côté, cette personne-là attendait des choses qu'elle ne m'a pas verbalisées non plus. Mm-hmm. Donc, on s'est retrouvés un petit peu chacun dans notre monde. Même si on partageait encore beaucoup de choses, on partageait beaucoup d'activités. Mais comme moi, c'est une personne qui faisait beaucoup de plein air, qui adorait ça, qui adorait la nature. Puis il a tout fallu changer nos activités puis notre façon de faire. Puis même ça lui plaisait pas toujours. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis au kayak de mer, puis c'est probablement une des activités les plus merveilleuses pour voir la Gaspésie. Puis comme on avait un kayak double, ben c'était facile pour elle de faire moins d'efforts que moi ce que je devais fournir. Puis même à ça, la personne, comme on dit en anglais, c'est une achiever, c'est quelqu'un qui aimait réaliser elle-même. Puis ça, c'était encore difficile aussi pour elle. Puis de faire des deuils sur l'ensemble de ses passions, ben ça a été très difficile. Puis c'est le jugement aussi, là.
Ouais.
On travaille pas. Pourquoi tu travailles pas? T'as un chum, t'as une belle vie, t'as un bel emploi, t'as une belle profession. Mm. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, ça a été vraiment les prémices du chaos parfait ou de la tempête parfaite là, que j'ai vécu après ça, là.
Donc, c'était en quelque sorte l'élément déclencheur, c'est-à-dire la santé physique et mentale de ta conjointe à ce moment-là. Puis qu'est-ce que justement qui les choses, j'en comprends que les choses se sont mises à débouler là les unes après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Assez rapidement, ben faut dire qu'il y avait de la maladie mentale dans sa famille aussi. Elle avait un oncle, entre autres, qui était non fonctionnel. Donc, elle avait peur de ça. Elle avait peur que ça vienne vers elle. Elle avait peur de ses propres réactions, de la façon dont elle vivait tout ça. Puis, ce qui s'est passé à ce moment-là, l'élément déclencheur, c'est à un moment donné, elle m'a dit « Je peux plus m'investir dans le couple tout en essayant de m'investir dans ma guérison. » Puis à ce moment-là, elle a demandé qu'on fasse une pause. Puis je l'avais pas vu venir du tout. Ça faisait 2 ans qu'on était dans notre maison, qui était un projet qu'on travaillait depuis 4 ans. On avait trouvé nous-mêmes le terrain, on avait dessiné ensemble la maison, on s'était occupé de tous les aménagements. Fait que du jour au lendemain, c'est un projet finalement qu'on avait travaillé fort. C'est probablement notre projet le plus important, le plus grand. Puis pas tellement pour le matériel. Ça, je m'en fous un petit peu, là. Une maison, ça reste une maison, là. Mm-hmm. Des murs, un toit. Mais parce que, comme on pouvait faire moins d'activités sportives, c'est un projet qui nous avait mobilisés beaucoup.
Ouais.
Donc, de dire, c'était une série de deuils qui me frappaient, là. Le deuil de choses qu'on pouvait plus vivre au niveau physique dans la relation. Évidemment qu'elle allait moins bien aussi. Il y avait aussi un deuil dans la relation. Puis là, c'était un deuil dans une présence quotidienne ensemble, là.
Ouais.
Puis ça, c'était un mur, là. Ça, je l'avais pas vu venir du tout, là. Ça a été vraiment là, un moment difficile pour moi, là.
J'imagine qu'il y a eu des... En fait, une partie de ta vie s'est écroulée, là, parce que, je veux dire, tu sais, la relation, ça reste que ce qu'on partage avec quelqu'un, ça fait partie quand même d'une certaine... C'est une de nos pierres angulaires de vie, très souvent. Puis là, pouf, du jour au lendemain, toi, t'as perdu ça sans le voir venir. Comment t'as réagi face à cette pause-là?
Je te dirais, avant même la pause, moi, ça a été, j'ai vu ça comme la fin de ma vie. J'ai vu ça là, vraiment comme un événement là, d'une ampleur dramatique là, que j'avais pas pensé. Okay. C'était au mois de janvier, je m'en souviens encore. Là, je venais de fêter mes 40 ans, janvier 2009 à ce moment-là. Puis, les enfants vivaient avec leur mère à Sherbrooke. Donc, c'était une fin de semaine où j'allais les voir, j'allais les rencontrer. Puis je me souviens, je suis entré dans la voiture pour faire le voyage avec du papier puis des crayons sur le siège du passager. Je voyageais seul. Puis, tout en conduisant, chose qu'on ne devrait jamais faire, j'ai écrit. J'avais commencé probablement la veille, puis j'ai continué un petit peu dans la voiture à jeter des idées sur papier. Puis finalement, j'écrivais des lettres d'adieu aux personnes autour de moi. Moi, c'était vraiment là, je souffrais énormément. J'avais pas beaucoup les outils pour partager tout ça. J'avais plusieurs bons amis. Mais je dirais nos amis de gars, c'est toujours la même chose. Hey, le gros, comment ça va? Puis coup de coude, une tape, puis on rit fort. Puis on va pas toujours au niveau des sentiments. Là, on évite un petit peu cette partie-là, même si on s'est amélioré par rapport à la génération de nos parents. Ouais. C'est pas encore quelque chose, en tout cas pour moi, qui était naturel. Là. Donc, ce que je pouvais pas exprimer verbalement, je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour essayer d'enlever de la douleur puis de la responsabilité aux gens autour. Là. Je me retrouvais face à une décision qui était la mienne. Mm. C'était pas de la faute de personne. Puis je voulais enlever cette culpabilité-là. En même temps, il y a une lettre que j'ai pas écrite. À ce moment-là, j'ai pas écrit à mon père.
Okay.
Parce que finalement, je lui en voulais beaucoup. C'était un petit peu, là, je me suis rendu compte après, là, c'était une vengeance par rapport à mon père. Là,
okay.
Que j'avais trouvé, qui est une bonne personne, il est décédé maintenant. C'est une personne que j'adore, ça a été mon modèle. Puis pour plusieurs choses, c'est encore mon modèle. Mm-hmm. Mais il est arrivé différentes choses dans la vie de la famille où j'aurais voulu qu'il se lève puis qu'il prenne sa place. Puis il ne l'avait pas fait. Mm-hmm. Puis je lui en voulais beaucoup pour ça. Donc,
tu voulais pas lui laisser quelque chose pour qu'il se questionne sur le pourquoi et tout ça, à quelque part, là, quand tu parles de vengeance.
C'était un acte de méchanceté.
Ah oui, hein? Souffrais beaucoup à ce moment-là.
Oui, exactement. Puis je voulais pas lui pardonner, finalement.
OK.
Donc, je lui écrivais pas.
Est-ce que à ce moment-là, quand tu écrivais ces lettres-là, tu avais conscience que tu étais en train d'écrire des lettres d'adieu, dans le sens où... Est-ce que ton objectif, quand tu as sorti le papier, les crayons, est-ce que tu t'es dit « OK, je vais écrire des lettres d'adieu » ou ça s'est comme fait, tu sais, ça s'est mis à sortir de toi puis tu te rendais compte que « OK, c'était la direction dans laquelle tu t'en allais, c'est-à-dire que toi, tu voulais arrêter ces souffrances-là et donc tu t'apprêtais à faire un choix de mettre fin à tout ça ».
Oui. C'était conscient.
OK.
C'était conscient. C'était pas une démarche pour m'en sortir ou c'était pas...
Wow!
Il y avait une grande conscience dans tout ça. Oui.
OK.
Oui.
Donc là, t'es en voiture, t'as écrit ces lettres-là, t'es en direction d'aller voir tes enfants. Qu'est-ce qui se passe après, là? T'as ça en toi, tu vas les voir pour la dernière fois dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit à ce moment-là?
C'était peut-être pas aussi conscient, mais oui. C'était une des dernières rencontres. J'étais pas encore assez prêt pour avoir cette charge dramatique-là en moi. Mais oui, je me dirigeais vers une des dernières fois.
Okay.
Mais comme on sait, ben, quand on fait de la route de Gaspé, on roule longtemps.
Oui.
Donc, je roulais à ce moment-là de Gaspé à Sherbrooke. Donc, j'avais un 9-10 heures de route. Ça a été suffisant pour prendre conscience de quelque chose, puis de décider de prendre ma vie en main, puis pas laisser les événements ou d'autres choisir pour moi de vraiment reprendre le contrôle.
Mm.
Puis j'ai pris les lettres que je destinais à Noémie puis à Xavier, qui sont mes deux enfants, qui à ce moment-là avaient 15 ans pour Xavier, puis presque 17 ans pour Noémie.
OK.
Puis ce que j'ai fait avec les lettres, c'est que je leur ai lu.
Ah oui?
Oui,
OK.
Oui.
Lors de cette visite-là?
Lors de cette visite-là.
Donc, tout frais, tout chaud, certainement habité de... En fait, au lieu de te refermer avec tout ça, tu as fait complètement l'inverse, tu as exposé...
Un geste d'ouverture, oui.
Wow! Ouais. OK, c'est grand, ça.
J'étais un petit peu inquiet au départ parce que les enfants n'étaient quand même pas vus, puis on veut pas donner ça à nos enfants. Nos enfants, on veut toujours donner le plus beau, le meilleur... on veut pas partager nos échecs, nos souffrances. Mm. Puis j'ai jugé qu'à 15 ans puis à 17 ans, ils étaient assez vieux pour entendre certaines choses. Puis ils étaient assez vieux aussi eux-mêmes pour souffrir, pour avoir des difficultés dans leur vie, puis avoir des choix à faire. Parce que la vie, c'est un choix de tous les jours. Là. La vie, c'est grandiose, mais c'est un choix. Puis quand quelqu'un va mal, puis il me dit, ben, ah, j'ai pas le choix, faut que ça aille bien. Non, non, t'as le choix. T'as le choix. Puis on n'est pas obligé de le partager, mais t'as le choix. Puis je comprends que ce qui se passe présentement, c'est difficile pour toi. Puis si tu veux qu'on en parle, je vais être prêt à en parler. Mais pour moi, si je te demande. Comment tu vas? Ben, j'aime mieux avoir la vérité, finalement, que des lieux communs, finalement. Là. Demander à quelqu'un comment ça va, automatiquement, c'est ça va bien, là.
Oui, mais... c'est ça. On ne s'attend pas à se faire dire, hey, pas pantoute, là, ça va pas.
C'est ça.
Même qu'on fige, hein, quand les gens nous répondent autrement que, oui, ça va. Tu sais, c'est quasiment des formules consacrées, finalement, des automatismes.
C'est ça.
Mais j'imagine que toi, en faisant le choix de leur lire, de leur partager ce que tu vivais, ben, tu le faisais aussi en sachant qu'à ce moment-là, tu avais décidé de prendre ta vie en main dans le sens où tu n'allais pas simplement subir ce qui se passait, notamment ce qui arrivait à ta conjointe, mais de dire « OK, je pourrais faire ce choix-là de vouloir en finir, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais plutôt prendre le contrôle, donc prendre une responsabilité à l'égard de ma propre vie au lieu de me laisser impacter comme ça sans rien faire, finalement. »
Je pense que parler, c'est le premier geste de sauvegarde, finalement. Mm. C'est la première action ou l'action la plus importante pour... s'approprier sa guérison, finalement, pour décider de prendre un autre chemin. Plutôt que prendre le chemin de la souffrance, prendre le chemin où on se révèle, où on va guérir. Mm. Puis moi, je voulais laisser comme message aux enfants, c'est un jour, vous allez avoir des difficultés, tout le monde en a. Puis j'ai pas à juger comment vous allez les vivre. Des fois... le deuil d'un animal, ça peut être aussi important pour une personne que le deuil d'une personne. Mm-hmm. Puis moi, je le vivrais pas comme ça, mais j'ai pas à le juger. Donc, j'ai pas à juger non plus des difficultés que mes enfants auraient ou auront dans leur vie. Donc, moi, je voulais leur laisser comme message, regardez, là, j'ai eu des difficultés, j'ai l'humilité de vous en parler pour vous donner un... J'aime pas ça, ça fait un peu paternaliste, là, mais pour vous donner un enseignement avec tout ça, pour vous dire, là... Mm-hmm. Un jour, peut-être, ce sera votre tour. Puis dites-vous que quelque part, il y a quelqu'un qui est prêt à vous écouter, qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous entendre. Puis trouvez cette personne-là, puis partagez avec elle.
Ça a réellement dû changer quelque chose dans la dynamique de votre relation à toi et tes enfants, parce que c'est gros, là, ça. Et souvent, c'est rare que les parents font ça, mais j'imagine que tu le fais aussi parce que tu sentais tes enfants solides et apte à recevoir ce que tu leur as partagé aussi.
Oui, je pense que tout à fait, oui. Puis, ça a changé beaucoup ma relation, en particulier avec Noémie, qui avait eu une adolescence, disons, un petit peu... je dirais pas difficile, parce qu'elle a bien traversé, mais une adolescence où son lien avec moi était difficile, là. Okay. Où elle a eu beaucoup de récriminations, puis beaucoup de choses à me dire, puis beaucoup de choses pour lesquelles elle n'était pas satisfaite, elle n'était pas contente. D'ailleurs, la paternité à distance, c'est pas évident. Là. Je les voyais, mais je les voyais pas aussi souvent que si j'avais été en garde partagée comme à la première année de séparation. Là, je les voyais des périodes plus longues, mais plus rares. Là. Donc, elle avait beaucoup de ressentis par rapport à moi. Puis je pense qu'elle m'a revu à ce moment-là comme un être humain. Comme quelqu'un... pas un être froid finalement qui prenait des décisions de façon égoïste. L'homme a vu plus, je dirais, là, comme une personne à part entière, puis une personne qui souffrait puis qui était prêt à partager avec elle.
Là. Wow, ça, ouais. ça a certainement été bénéfique, effectivement, dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite, une fois que tu as avoué ça à tes enfants? Est-ce que tu avais d'autres étapes là, dans la reprise de ta vie, du contrôle de ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, bien là, je m'acheminais vers un déménagement, premièrement, parce que Nadia m'avait demandé est-ce qu'on se sépare physiquement. Mm-hmm. Donc, ben, fallait que je trouve un endroit où me loger. Puis, fallait que je trouve aussi des façons de m'en sortir. Donc, j'ai commencé une démarche aussi avec un psychologue ici à Gaspé, là, qui a été quand même très importante, là, parce que j'aurais pas pu arriver tout seul à démêler tous ces fils-là, puis à me refaire une vie, finalement, là, à sauver ma vie, finalement. Là. Donc, j'ai habité chez un couple d'amis communs. C'était peut-être pas la meilleure idée parce qu'on veut pas qu'ils prennent part pour un ou pour l'autre, mais ça a quand même coulé de source. Ça a quand même bien été à ce niveau-là. Le temps que je me souviens pas, ça a peut-être duré 2 mois, là. Le temps que je me refasse un peu, me resolidifie, puis me fasse d'autres activités. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des cours de plongée sous-marine, ce que j'avais pas pu faire au cégep parce que ça n'avait jamais rentré dans mon horaire. Puis c'était un peu un rêve lointain.
Okay.
J'ai recommencé à faire du camping d'hiver. Donc, je me suis donné des activités là, pour parce que le centre de ma vie, c'était une relation avec quelqu'un. Là. Je m'étais oublié beaucoup.
Okay.
J'avais oublié aussi beaucoup d'amitié. Puis j'avais oublié peut-être un peu de réfléchir où j'en étais puis où je voulais m'en aller. Là.
Okay.
Donc, ça a été une période là, charnière, puis où il y a eu beaucoup de brasses camarades.
Oui. Donc, ça a été comme ta façon là, de t'occuper avec des activités que tu avais mis de côté pendant un moment. Tu t'es retrouvé. Donc, ça a été la voie pour toi de cette forme de guérison-là.
Ouais.
Ça a bien cheminé dans les mois qui ont suivi? Comment les choses?
Relativement bien, je te dirais. La démarche, c'était comme tu m'en parles, là, puis ça réveille des choses.
Mm-hmm.
C'est comme si c'était une démarche en deux parties. Une démarche logique, importante, la démarche avec un psychologue.
Oui.
Puis ça a été aussi une démarche d'oubli, puis de je fais d'autres choses. Là.
Oui.
Je fais d'autres choses comme pour oublier mes problèmes, oublier que ça va pas bien. Là. Donc, je m'étourdis ailleurs. Là.
Oui.
Il y avait vraiment les deux choses, puis les deux ont été importantes là, dans tout ça, je te dirais.
Ouais. Comme si tu avais eu besoin de ces deux façons de faire-là pour t'en sortir. Est-ce que tu dirais que tu as fait de l'évitement à vouloir t'occuper l'esprit ou c'était juste ben, une façon de te protéger puis tu étais en quelque sorte... c'est d'assurer sa survie aussi, là. Parce qu'en parallèle, tu te posais des questions, tu cheminais dans une thérapie encadrée par un professionnel puis l'aide externe. Je pense qu'en 2021... plus que jamais, on ne doit pas avoir honte de ça, mais c'est quand même encore des perceptions que certains ont d'une certaine faiblesse. Moi, je suis contente que tu en parles ouvertement aujourd'hui, d'autant plus que tu es un homme, puis c'est un certain tabou. Même si de plus en plus, on voit que c'est normal, on parle beaucoup de santé mentale, mais moi, j'admire la générosité puis l'honnêteté que tu as en en parler aujourd'hui parce que ça peut justement... Puis tu sais, c'est pas... ça veut rien dire sur toi autre que tu t'as vraiment pris les choses en main puis t'as fait ce qu'il fallait pour. Puis je suis d'accord avec toi que des fois, on a besoin d'une aide extérieure parce qu'on n'a pas tous les outils en main. Donc, est-ce que tu dirais que ça a été une période dans cette phase-là de revenir à un certain contrôle, parce que tu t'es oublié, tu l'as nommé, tu t'es oublié, et qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite, dans les mois qui ont suivi, t'as cheminé de quelle façon?
Bien, tu parlais du terme étourdir tout à l'heure, là. C'est sûr qu'en embarquant dans plein d'activités, plein de nouvelles choses, oui, il y avait une partie de m'étourdir, mais c'était différent de ce que j'aurais vécu avant. Avant, je me serais seulement étourdi.
OK.
Alors que là, j'avais une démarche avec un psychologue, une démarche de réflexion, mais je voulais pas que ça occupe mes journées là, 24 heures par jour. Là.
Ouais.
Donc, j'avais besoin des deux. Besoin de la démarche psychologique pour m'en sortir, pour comprendre. Mais en même temps, je devais m'en sortir de ça aussi pour pas que ça accapare mes journées au complet. Là.
Puis, tu avais besoin de ventiler.
Oui, ouais. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Je pense que quand on souffre, on n'a pas besoin d'avoir le nez toujours dedans. Là. Je pense que de temps en temps, il faut pouvoir là, ou faut savoir se retirer un petit peu puis faire autre chose.
Combien de temps la crise a duré à ce moment-là, tu dirais?
Ben à ce moment-là, j'étais toujours dans une crise. Puis je te dirais là, que à posteriori, là, on peut parler d'années. Là.
Ouais,
on peut parler en termes d'années, là, plus qu'en termes de mois. Là,
si je te demandais les grands jalons de cette crise-là que tu as vécue,
bon, premier jalon, la prise de conscience.
Ouais.
L'abandon aussi. L'abandon que je sentais de ma conjointe de l'époque.
Ouais.
On a quand même continué à se rencontrer, se voir de temps en temps. Il y a aussi un psychologue qui nous voyait les deux ensemble. Le deuxième moment, je dirais, ou le troisième, je ne sais plus où je suis rendu, là, c'est quand elle a commencé à se relever, là. C'était une femme qui souriait énormément puis qui n'avait pas souri dans la dernière année.
Okay.
Puis elle a commencé à aller mieux, en tout cas c'est ce qu'on pensait, recommencé à sourire puis recommencé à travailler aussi. Donc moi, je voyais, c'était très positif pour moi parce que de la voir sortir de ça, ça me disait, bien, pour moi aussi, il y a une lumière, pour moi aussi, il y a quelque chose.
Mm-hmm.
Si ce n'est pas avec elle, au moins... Elle vient de passer à travers quelque chose qui est plus grave, plus important que ce que moi je traverse. Donc, ben, c'était peut-être un petit peu un message d'espoir. Là.
Ouais.
Toi aussi, tu vas t'en tirer. Là. Toi aussi, tu vas passer à travers, puis tu vas recommencer à sourire, puis tu vas recommencer à être heureux. Là.
Ouais.
Donc, ça a été un petit peu la deuxième étape. L'étape suivante, ben, mes proches le savent, les gens de Gaspé le savent un petit peu aussi. Là. Nadia est passée à l'acte, elle a décidé de se suicider. Là.
Ouais.
Donc, ça a été là, un autre coup là, dans ma tempête parfaite, dans ma crise. Là. Donc, ça a été un moment finalement où... je donne toujours une image maintenant par rapport au suicide. Je parle du suicide comme un casse-tête.
OK.
Donc, on ramasse les pièces d'un casse-tête. Rapidement, on se rend compte de deux choses. La première, c'est qu'il nous manque des morceaux. Puis la deuxième, c'est qu'on n'a pas l'image qu'on doit faire.
Mm.
Puis c'est comme si j'avais à choisir entre deux images. Une image où c'est moi qui me mettais au centre en me disant « Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? » Puis une image là, qui est culpabilisante. Puis une autre image où on donne à la personne la responsabilité de ses actes, finalement. Là.
Ouais.
Les actes sont éminemment tristes. Elle aurait une belle place encore dans la communauté. C'était une excellente personne, investie dans son travail.
Vraiment.
Mais c'est pas la voie qu'elle a choisie, puis j'ai pas à la juger là-dessus. J'ai eu beaucoup de colère, mais maintenant, je suis plus triste par rapport à elle, par rapport aux gens, au nombre de gens, là, à son entourage là, élargi, si tu veux. Là.
Ouais.
Mais j'ai pas pris une image où c'est moi qui étais au centre de cette décision-là. Nadia, elle avait pris beaucoup de moyens pour s'en sortir. Elle était suivie, elle aussi, en psychologie. Elle avait beaucoup d'amis dans le milieu de travail. Comme elle était dans le milieu de la santé, il y avait beaucoup de son entourage qui était beaucoup mieux outillé que moi pour voir sa détresse puis pour la voir aller. Puis finalement, ces gens-là ne l'ont pas vue non plus. Là. Donc, j'ai eu encore une fois à ce moment-là, dans les jours qui ont suivi, encore une démarche un peu étourdissante, mais je suis allé voir. Moi, j'avais un casse-tête devant moi, puis il me manquait des morceaux. Fait que j'avais une quête pour trouver les morceaux. j'ai cherché pendant des mois un mot qu'elle pourrait m'avoir laissé. Finalement, elle m'avait rien laissé. En tout cas, j'ai jamais rien trouvé. Mais elle m'avait laissé des mots à travers son entourage. Puis le fait de parler, le fait de chercher, ça a été là, vraiment là, une démarche salvatrice pour moi. Là. J'allais, puis les gens partageaient des choses différentes les uns des autres.
Mm.
Souvent, quand il y a un décès, bien, les gens viennent te réconforter. Mais on est toujours un petit peu mal à l'aise. Puis c'est souvent aussi des lieux communs. Ça va mieux aller plus tard, le temps fait son œuvre, puis tout ça.
Ouais.
Puis plutôt, là, les gens arrivaient avec des choses, des anecdotes particulières. Je me souviens, j'étais allé voir sa physiothérapeute. Sa physiothérapeute nous avait rencontrés quelques mois avant. Elle était en train de manger avec Nadia. Puis j'étais au même restaurant par hasard avec un de mes amis en même temps. Donc, j'étais allé les saluer avant de repartir. Puis après le décès de Nadia, elle m'a dit, tu sais, la première chose que j'ai dite à Nadia, là, j'ai dit, as-tu vu comment vous êtes regardés, là?
Mm.
Elle dit, vous êtes encore en amour, vous autres, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose qui existe. Là. Donc ça, c'est le message qu'elle m'a laissé. Un autre me disait, ah, quand Nadia parlait de toi, c'était telle chose, il y a telle fierté ou tel accomplissement. Donc j'avais plein de petits messages qui m'avaient été laissés un petit peu partout, sauf que j'avais pas le
sien.
J'avais pas le sien, exactement.
Ouais. Sauf que ces messages-là, ces anecdotes-là, c'était en quelque sorte, est-ce que c'était les pièces manquantes à ton casse-tête qui, peu à peu, ben, tu les as ajoutées au tableau, puis tu as réussi à finir l'image que tu devais faire de ton casse-tête? Est-ce que ça a aidé à dans ce sens-là?
Ça a aidé énormément. C'était comme autant de messages positifs. Parce que quand on est un proche de quelqu'un qui se suicide, on sent beaucoup de responsabilités.
Ouais.
Puis à ce moment-là, je voyais là, plein de petits messages d'amour, d'amitié, de reconnaissance qu'elle me transmettait via d'autres personnes. Puis j'ai longtemps pensé, sans pouvoir le savoir, que Nadia serait passée aux actes avant, mais qu'elle a attendu que j'aille mieux.
Ah,
puis à ce moment-là, c'est des messages ou des mots qui nous reviennent. Je me souviens, on s'était rencontrés, puis je lui racontais que j'étais allé camper, puis j'avais commencé à suivre les cours de plongée sous-marine. Puis elle m'avait dit, ah, ben c'est le fun. Mais elle dit, en même temps, c'est comme si tu n'avais pas besoin de moi.
Ah. Hmm.
Le message, au moment, il n'est pas si lourd de signification. Moi, j'ai répondu en disant, ben j'ai pas le choix. Ma relation était au centre de ma vie. Il faut que j'aie d'autres choses. Là. Donc, je suis en train de travailler pour mettre d'autres choses dans ma vie. Puis, mais a posteriori, c'était un message à Dieu. Là. Elle me disait, ben là, tu es en sécurité.
Mm.
Tu t'occupes de toi. Il y a des gens autour de toi. Donc, si je vais au niveau suivant, si je passe à l'acte, j'entraînerai pas une cascade. Finalement, tu vas être assez solide pour pouvoir t'en sortir.
Oui, tu sens que ça l'a rassuré, tu sais, de ne pas t'abandonner dans ta souffrance, puis même de l'accentuer après son geste. Est-ce que justement, comment tu as réagi au suicide de Nadia? Est-ce que tu as replongé dans une certaine souffrance ou comment? Parce que c'est. Et tu l'as nommé, c'est facile de se sentir coupable, tu sais, en raison de la place que tu occupais dans sa vie, même si vous n'étiez plus ensemble, vous aviez encore des contacts, on s'en est déjà parlé. Mais comment tu as réagi à tout ça? Là? C'est même pas tout le monde dans la vie là, qui ont à faire face à un suicide. Comment ça s'est passé pour toi?
Je te dirais que je me suis... enivré, entre guillemets, là, dans le sens où j'ai parlé à plein de gens, j'ai cherché plein de gens, j'ai voulu jaser avec plein de gens.
Mm.
Puis c'était beaucoup pour leur enlever de la responsabilité, pour leur enlever de la culpabilité. J'ai parlé beaucoup à des gens de son entourage, autant professionnels que des gens qui l'avaient traité. Là, je parlais tantôt de psychologues, de deux psychologues, je parlais de physiothérapeutes, je parlais de gens comme ça. Puis, elle avait travaillé fort pour se sortir de ses douleurs chroniques. Donc, je suis allé voir l'ensemble de ces personnes-là pour partager la reconnaissance qu'elle avait eue pour eux, qu'elle leur avait peut-être pas dites. Je le savais pas, puis je pouvais pas le savoir non plus. Donc, j'avais besoin de faire le tour de ces gens-là. Puis, je me suis servi aussi de ces témoignages-là pour bâtir mon témoignage pour Nadia. C'est moi qui me suis occupé de l'ensemble de la cérémonie funéraire. Ouais. Puis, j'ai préparé moi-même un éloge que j'ai livré moi-même, là. Donc, ça a été un petit peu ma façon un peu de m'enivrer, si tu veux, là. J'ai été tellement occupé dans ces deux semaines-là, dans les deux semaines entre son décès puis son inhumation, que j'ai pas eu le temps beaucoup de réfléchir à moi-même, là. Puis c'est probablement une chose importante que j'ai faite, c'est que moi, j'avais encore du temps pour m'occuper de moi. Alors que les souvenirs d'une personne qui est disparue, ben ils s'estompent tranquillement.
Ouais.
On perd on a nos cinq sens, là. Je me souviens pas dans lesquels, mais on perd l'odeur rapidement. On perd l'odeur, on perd le son. Puis à la fin, ben il nous reste la vue parce qu'il nous reste des photos, il nous reste des choses comme ça, là. Mais ouais. On perd les sens les uns après les autres.
Okay.
Donc c'est important, puis je le savais pas, mais de faire tout ça en premier parce que c'était encore chaud, l'événement venait de se passer. Donc c'était le moment là, d'aller chercher le maximum d'informations, là.
En tout cas, je retiens aussi que tu as été très généreux dans cette période-là à l'égard des autres qui pouvaient eux-mêmes ressentir de la culpabilité, de ne pas avoir su l'aider à leur tour, à la mesure de chacun, on s'entend, mais il y a des dommages collatéraux, là, un suicide, tout le monde se regarde et dit « Est-ce que j'ai échappé quelque chose? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? » Donc, toi, en partageant comment... Nadia t'avait communiqué à quel point ces gens-là avaient été précieux pour elle, ben tu leur as enlevé cette espèce de poids-là d'une certaine culpabilité que tu voulais surtout pas qu'ils portent sur leurs épaules, un peu comme la tienne, tu sais, qui... Vous vous êtes alimentés les uns les autres.
T'es exactement vers ma réponse, là. Moi, il y a des gens qui m'ont aidé. Peut-être pas énormément parce que je m'étais pas ouvert beaucoup. Donc, j'en ai parlé de mes idées suicidaires. J'en ai parlé une fois qu'elles ont été terminées. Puis j'en ai parlé aussi un petit peu après le décès de Nadia. Donc, moi, il y a des gens qui m'avaient aidé. Il y a des gens qui m'avaient... ramener là vers la vie, puis j'étais conscient de l'importance que ces gestes-là avaient eu, puis j'ai décidé de donner au suivant finalement, d'essayer de faire les mêmes gestes vers d'autres personnes qui pouvaient sentir là à différents niveaux eux aussi une culpabilité.
Ouais. Après la mort de Nadia, il y a certainement eu d'autres jalons à ta crise. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé après ce traumatisme-là, quelque part? Là, ça va toujours faire partie intégrante de ta vie, j'imagine.
Bien, comme je te disais, l'autre jalon, peut-être, c'est au début de l'été. Comme je te disais, la relation avec mon père n'était pas toujours évidente dans le sens où je trouvais que c'était un homme qui s'était pas levé beaucoup pour moi, qui s'était pas dressé beaucoup pour moi. Puis, j'ai appris qu'il faisait un cancer de la thyroïde là, après. Puis, c'était génétique. Donc, à la loterie de la génétique, là, il y a une personne sur deux dans ma famille élargie là, qui avait le même problème, qui a dû faire face là, à une ablation de la thyroïde. Là. Donc, ça a été là, l'autre choc, là, finalement. J'étais en train de me remettre tant bien que mal d'un suicide. Puis là, j'apprenais que mon père était malade.
Ouais. Et comment tu as réagi face à sa maladie? Est-ce que ça t'a donné l'impulsion de vouloir régler certaines choses avec lui? Comment te dealer avec l'annonce de sa maladie? Puis peut-être aussi une certaine mort prochaine, j'imagine?
À ce moment-là, on parlait pas de décès. Normalement, un cancer de la thyroïde, c'est relativement bénin, là. Sauf que dans le cas de ce gène-là, c'est ce qu'on appelle un cancer médulaire, donc il est plus difficile, là. Puis, ça a été le premier de la famille qui a été diagnostiqué par rapport à ce gène-là.
Okay.
Donc, on savait pas. Donc, la maladie avait eu le temps d'avancer beaucoup plus dans son cas. Mais ils déménageaient aussi. Ils venaient de vendre leur maison quand il a appris ça. Puis ils s'en allaient vers Lévis. Donc, maladie, déménagement, vente, achat d'une propriété ailleurs. Donc, tout ça en fait en sorte qu'on n'a pas eu l'occasion beaucoup de parler. Puis, mon père, c'est un grand orateur, dans le sens où, peu importe avec qui il se trouve, il va pouvoir parler, là. Moi, je me souviens de lui, là, autant avec des déficients. Je me souviens, quelqu'un qui n'avait pas été choyé par la vie, là, qui arrêtait mon père souvent puis qui avait été leur mascotte de leur équipe de balle. Puis il était un petit peu fatigant. Mais mon père arrêtait tout le temps pour lui parler. Puis il trouvait des mots, puis il trouvait des intérêts avec lui. Il jasait. Puis à un moment donné, quand il fallait qu'il reparte, bon ben, bye-bye, on se revoit plus tard, puis je te parlerai plus tard.
Okay.
Autant je l'ai vu parler avec des politiciens, je l'ai vu parler avec le maire de Québec dans les célébrations en 1984, puis c'était pas gênant de le voir, là. Il était capable de s'adapter à n'importe qui, d'avoir le niveau de langage, d'avoir des sujets aussi pertinents d'une personne à l'autre, sauf que mon père avait pas les mots pour exprimer ses états d'âme. Il avait pas les mots pour... aller au fond du cœur, finalement. Là.
Ouais, okay.
Donc, c'est quelqu'un que, dans son entourage, tout le monde l'a connu. La plupart des gens l'ont très apprécié, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont connu dans son essence.
Mm.
C'est un cadeau qui m'a été...
Ouais. Ouais, ce qu'il était réellement,
ouais.
Là, en fait. Okay.
C'est un cadeau qui m'a été donné plus tard. Là.
C'est-à-dire?
Ben, à un moment où il était malade, je l'avais vu souvent, ma sœur l'avait vu souvent, mais mon frère ne l'avait pas vu beaucoup. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de moyen de transport, tout ça. Donc, je m'étais dit, bon, Lévis, Montréal, c'est une pinotte. Je vais aller chercher mon frère à Montréal. On va passer du temps à Lévis. Puis je le retournerai le porter le soir ou le lendemain. Donc, je vais le chercher. Puis, à un moment donné, mon frère est tout seul avec mon père, puis je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Donc, je viens pas m'immiscer dans ça. Puis, je me rends compte qu'ils vivent un beau moment. Puis, moi, ça a été une frustration au départ, où je me dis, hey, je fais l'effort d'aller chercher mon frère, puis qu'est-ce qui a le gros lot? C'est lui, puis moi, il me reste rien en arrière de ça. Puis, finalement, quelques mois après, je me suis dit, ben, il a fait son moment, c'est à moi à faire le mien.
Ouais.
Puis ça a été tardif, ça a été dans ces deux dernières semaines de vie.
Oh,
mais,
quand même.
Oui, mais j'ai eu des moments, là. J'ai pu avoir des moments avec lui, là. Des moments qu'on se serait jamais permis, là, s'il avait été en santé.
Vous vous êtes finalement ouverts l'un à l'autre, c'est ça qui s'est passé?
Oui.
Après toutes ces années-là?
On s'est pardonné. Un comme l'autre. J'ai pardonné à mon père, finalement, d'être un être humain. J'ai pardonné à mon père de ne pas être seulement le héros puis la grande personne que je voyais. Je lui ai pardonné là, de
d'être imparfait.
Oui, exactement. Exactement. Puis, je me souviens. On était à l'hôpital, à Lévis. C'était vraiment affreux, là. L'hôpital débordait de partout. Donc, il s'était retrouvé dans une unité, dans une ancienne chapelle, où il y avait 9 lits. Donc, l'endroit le moins anonyme ou le moins qui puisse exister. Puis, ma mère était fatiguée, puis elle m'avait dit, ben, raison avec ton père un petit peu. J'ai des courses à faire, j'ai différentes choses, ça me ferait du bien de sortir un petit peu de l'hôpital. Puis, je me suis assis dans le lit à côté de mon père. On s'est tenu par la main. Puis c'est... C'était ni lui, ni moi. Puis à un moment, mon père m'a dit, « J'ai pas toujours été correct avec toi. » Puis moi, j'ai dit, « Papa, je voudrais pas d'autre père que toi. J'aurais pas voulu d'autre père que toi.
»
Puis c'est la seule fois où j'ai vu mon père verser une larme. Je n'avais jamais vu mon père pleurer.
C'est bon.
J'en parle, écoute, ça fait Mon père est décédé en deux. Ah mon Dieu, la mémoire des dates en 2012. Ouais, mon père est décédé en 2012. Donc, ça fait 9 ans presque. Puis j'ai encore.
Ça t'émeut
Ouais,
encore,
ouais.
mais c'est émouvant.
Ouais.
C'est précieux d'avoir eu ce moment-là, puis
Ouais.
ce pardon-là de part et
De
d'autre.
part et d'autre.
C'est très généreux de le partager aussi, Fred.
Oui.
Ça a été une grosse année, l'année de tes 40 ans, donc
Oui.
on se sent bousculé là, après avoir vécu ta propre souffrance, tes propres idées suicidaires, la mort de Nadia, la maladie de ton père. Comment ça évolue là, par la suite? Parce que c'est pas à ce moment-là que les choses se règlent avec ton père. C'est ça que je
Non,
comprends
pas
parce que
du tout,
son
pas du
décès est
tout.
arrivé à peu près, là, si je calcule bien, à peu près 3 ans
3 ans plus
plus
tard,
tard. C'est
oui.
ça.
Ben à ce moment-là, j'ai encore un petit peu. Je m'étais débarrassé de cette image-là, mais elle était encore un petit peu au fond de moi. Pour moi, une famille heureuse faisait en sorte que le couple était heureux, puis un couple heureux faisait en sorte que l'individu pouvait être heureux. Quand je me suis séparé de la mère de mes enfants, j'ai mis ça à complètement à l'opposé où j'avais besoin d'être heureux avec moi-même avant de pouvoir être heureux en couple et en famille. Puis j'ai beaucoup passé pour un égoïste, là. Dans la société, c'est beaucoup ça, là. Une séparation, il y a beaucoup un acte d'égoïsme là-dedans, là. Alors que c'est pas ça du tout, là. Ou en tout cas,
Mais tout part
assez
de
rarement.
soi, c'est.
Mais oui, en même temps.
Mais il y a un dicton qui dit d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai tendance à partager ce que tu viens de dire là. C'est que il y a un dicton qui dit d'ailleurs que c'est, on peut pas être heureux dans une relation si on n'est pas heureux avec soi-même.
Oui.
C'est ça que tu dis
Oui.
finalement. Tu te savais pas heureux toi-même, donc t'étais pas en mesure de l'être dans une
Oui.
relation. Et est-ce que tu es en train de me dire que tu as passé les années de ta quarantaine finalement à travailler sur toi-même, à te, ben peut-être à retrouver qui tu es parce que tu t'étais mis de côté pendant longtemps.
En bonne partie, je te dirais, oui.
Ouais.
En bonne partie. Pas toutes, là, mais les premières, disons.
OK.
Ouais, les premières ont été importantes pour ça, là. Savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais pour le reste de ma vie. C'est un petit peu un bilan, la quarantaine, comme j'ai franchi la cinquantaine. Maintenant, c'est un autre bilan, là, où on se dit on en a plus en arrière qu'on en a en avant. Là, donc, on veut pas gaspiller ce qui nous reste, là. Donc, oui, il y a eu encore beaucoup de réflexions, là, puis beaucoup dans la première partie de la quarantaine.
Qu'est-ce que tu gardes de cette crise-là qui, comme tu le disais, a duré plusieurs années? Parce que moi, le Frédéric que je connais, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer avec l'autre,
Ouais.
d'entrer en relation, de parler de ses sentiments. Mais je te connaissais à l'époque, là, je veux dire, on a fait, toi, moi et
Ouais.
Nadia, le défi des 2 tours, c'est là qu'on a appris à se
Ouais.
connaître. Je vous ai même vu tomber en amour tous
Ouais.
les deux, ça s'est passé à cette occasion. Ben, en tout cas, si je ne
Oui.
m'abuse, ça s'est passé à cette occasion-là. Je t'avais jamais perçu comme étant quelqu'un qui n'était pas connecté sur lui-même, mais on se connaissait pas assez. Mais
Ouais.
moi, le Frédéric que je connais, il est comme ça. Puis il est quelqu'un d'extrêmement généreux. Mais pour t'avoir parlé, on a eu une extraordinaire discussion ensemble, toi et moi, à l'été 2020, quand tu m'as aidé là à faire mon triathlon. Puis tu sais, c'est là que j'ai réalisé tout le parcours que tu avais fait parce que j'ai l'impression que le Frédéric que je connais aujourd'hui, tu es devenu cette personne-là, notamment avec tout ce qui s'est passé dans ta quarantaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité à parler de ce sujet-là parce que ça a été un moment, c'est ma perception, tu me corrigeras si je me trompe, mais un moment névralgique dans ta vie, un moment charnière
Charnière.
où tu es devenue la personne sans doute que tu étais destinée à être, mais en tout cas, à tout le moins que tu voulais
Ouais.
être.
Je te dirais que Oui, il y a eu beaucoup de prise de conscience, il y a eu beaucoup plus d'ouverture. J'étais quand même quelqu'un qui était capable de parler un petit peu, capable de parler d'émotions, peut-être plus capable de les écouter et de les recevoir que de donner les miennes.
Okay.
Mais je commençais à être capable, puis j'ai toujours été plus capable de le faire avec des femmes qu'avec des hommes.
Mm-hmm. Okay.
C'est plus difficile pour moi, c'est un petit peu la boutade que je te disais tout à l'heure.
Ouais.
Et le gros, comment ça va? Là, puis
ouais.
Oh, ça va bien, ça va bien, ça va bien.
Mm-hmm.
Donc, c'est plus facile là, avec des femmes. Puis plus facile aussi avec des femmes en qui j'ai confiance.
Mm.
Puis c'est pas tout le monde non plus. Là. T'sais, pour s'ouvrir, c'est toujours... C'est un réflexe de vulnérabilité. Là.
Mm.
C'est un peu comme un animal, là, sauf qu'il y a un chien ou un chat qui se couche sur le dos, sur le côté, puis qui présente son ventre à quelqu'un, c'est parce qu'il lui fait confiance. Parce
ouais.
qu'on peut le blesser beaucoup en passant par le ventre d'un animal. Donc, un peu comme un animal, je donnais pas mon flanc à n'importe qui. Là.
Ouais. C'est une posture de vulnérabilité, à quelque
ouais.
sorte. Oui,
ouais. Puis on ne sait pas comment on va être reçu.
Exact.
Puis ça peut être retourné contre nous aussi.
Mm-hmm. Oui, effectivement. Par contre, tu fais le pari en choisissant les bonnes personnes puis en ayant la confiance en ces
ouais.
gens-là de t'abandonner, de ouais. te confier. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que ça a été les plus grands apprentissages que tu as fait de cette période-là de ta vie?
Je pense que j'ai appris beaucoup à m'exprimer, beaucoup plus à écouter aussi. J'étais plus un parleur qu'un écouteur, donc j'ai appris à écouter beaucoup plus. Puis j'ai peut-être appris aussi à moins juger.
OK.
C'est les Chinois qui disent on ne peut pas juger une personne avant d'avoir parcouru, je ne sais pas, 20 000 dans ses chaussures. Là.
OK.
Donc, c'est un petit peu la même chose où j'essaie de passer outre la première impression puis d'aller un petit peu plus loin. Là. Ça, c'est probablement des choses qui ont changé. Puis j'ai appris aussi beaucoup la valeur du temps.
OK.
Quand on veut faire un cadeau à quelqu'un, c'est pas de l'argent, c'est pas un présent aussi gros qu'il puisse être, là. C'est du temps.
Mm.
Puis si on regarde, je pense la plupart d'entre nous, on essaie de se souvenir, de regarder nos souvenirs d'enfance, puis les plus beaux souvenirs d'enfance dans nos familles, c'est pas des cadeaux, c'est pas des activités. Ben, c'est des activités, mais c'est du temps qu'on a pris ensemble,
ouais.
là. C'est du temps.
C'est pas du matériel, en
ouais,
tout cas.
Oui, exactement. Mm. Exactement.
Tu as tout à fait raison. Puis finalement, si tu avais à refaire les choses, est-ce que tu voudrais repasser par... je sais qu'il y a eu de nombreuses ouais. épreuves très douloureuses, mais en même temps, j'ai la perception que ça fait la personne que tu es maintenant, mais est-ce que tu repasserais par ces chemins difficiles-là, si c'était à refaire?
Je te dirais que je ne les souhaite pas à personne.
Mm.
Je ne souhaiterais pas non plus que ce soit les mêmes finalités.
Ouais.
Mais c'est certain que ça m'a défini comme être humain. Ça m'a défini comme partenaire de vie aujourd'hui. Ça m'a défini comme père, comme grand-papa maintenant.
Mm-hmm.
Fait que oui, malheureusement, probablement, il fallait que je passe à travers tout ça pour prendre conscience, pour évoluer. Bon, je ne souhaiterais pas que ça finisse par un décès,
ouais.
mais je pense que j'avais besoin de ça pour avancer. Là.
Mm.
J'ai cette image-là. Dans la vie, quand on reste stationnaire, les gens autour nous dépassent. Donc, on recule de toute façon.
Ouais.
Fait que on ne peut pas être stationnaire. Il faut aller de l'avant. Sinon, la vie nous dépasse, tout nous dépasse. Donc, il faut continuer d'apprendre, il faut continuer de cultiver des relations, il faut continuer de lire, de faire plein de choses, hein, de se nourrir, finalement.
Moi, ouais.
dans mon cas, c'est faire beaucoup de sport aussi. Puis c'est peut-être un peu drôle aujourd'hui. Les gens me voient peut-être plus un peu comme quelqu'un, hop, la vie, puis sourire accroché aux lèvres, puis une paire de skis accrochés aux pieds ou un vélo ou n'importe quoi.
Ouais.
Mais c'est un aspect, mais il n'y a pas juste ça. Là. Ouais.
Exact.
Ouais.
On n'est jamais qu'une seule chose, de toute façon.
Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai.
Fred, merci infiniment pour ton honnêteté, d'abord. Je trouve que tu t'es beaucoup compromis aujourd'hui. Je te remercie de l'avoir fait. Je trouve ton partage d'expérience extrêmement généreux, très authentique, sans tabou. J'apprécie ça. Je pense que les auditeurs vont l'apprécier. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Franchement, là, puis je le dis, puis j'ai des frissons qui me montent jusqu'aux oreilles. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là et de le partager avec les autres. Et ben voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions de ce genre.
Certain, je suis certain de ça. C'est moi qui te remercie aussi de tout ça.
Ça me fait vraiment plaisir. Et à vous, chers auditeurs, bien merci d'avoir été à l'écoute. Si vous êtes intéressé à découvrir mes différents contenus, que ce soit mon blog ou ce balado, bien je vous invite à vous rendre sur mon site web à auboutdesoi.ca. Et évidemment, si vous appréciez mes contenus, n'hésitez pas à les partager avec votre famille ou vos amis. J'espère vous retrouver lors du prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.
Au bout de soi est une idée originale de Caroline Farley, réalisée en collaboration avec Radio Gaspésie et le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. Merci au groupe québécois Wheel Driving West, qui a gracieusement accepté l'utilisation de leur pièce Betterlands de l'album Castle comme chanson thème d'Au bout de soi. Suivez Au bout de soi à auboutdesoi.ca, sur Facebook ainsi qu'au radiogaspésie.ca.